the vibe of the seats. Maybe next week I'm doing from home in a sick. I'm gonna start to do from home half and half and see it. Roger Moore said, love everybody to see it. Never eat no one to see it. Cause I don't make no, so am I supposed to eat or no? Peace, love, and happiness. Enjoy life. See you 2024.
Guys, gals, and non-binary pals. You are listening to Voices of Montreal Panacea on CKUT 90.3 FM. It's me, your host, Michelle, and it's 11 months of the show this month, so that's so close to 1 year. It's really exciting. And today is a double header day for Panacea. So this is a redo from last week because I slept through the show. It happens. Your girl's body needed the sleep. So this week, this Thursday, we're joined by my wise and awesome friend, who's also an avatar in another life, Ben. Say hi, Ben.
What's up, guys?
Aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous allons parler de dialogue social et de négociation collective. Également, on va discuter de syndicalisation dans les pays en développement. Donc, ce que l'on veut savoir, c'est quel est l'impact du dialogue social, de la négociation collective et donc de la syndicalisation pour les pays en développement. On se laisse donc tout de suite pour une brève petite pause et on se retrouve donc dans quelques instants pour notre manchette du jour. Je dis bien notre manchette du jour.
De la pensée pousse dans vos oreilles, vous écoutez CKUT Radio FM 90.3.
Me revoilà au micro, donc notre manchette du jour, une loi spéciale forçant le retour au travail des employés de l'État pointe-t-elle à l'horizon? Donc un article de Mme Stéphanie Marin, journaliste du journal Le Devoir. Donc, le front commun de quelques 420 000 employés de l'État en santé, services sociaux et en éducation ont amorcé, vous le savez, donc mardi dernier, donc leur première journée de grève sur une journée, donc sur un total de 3 annoncés. Et puis, la question que Mme Marin se pose, c'est à l'effet que ben, si jamais la grève se prolonge, est-ce qu'une loi spéciale pourrait être adoptée par le gouvernement Legault pour forcer le retour au travail donc, de ces enseignants? Vous connaissez la loi spéciale. La loi spéciale, au fond, force, on l'a compris, donc le retour au travail des grévistes. Hein. Deux jugements importants ont été rendus en 2007 et en 2015 qui encadrent donc ces lois spéciales, en fait, qui font en sorte que depuis 2015 plus particulièrement, les lois spéciales ne sont pas facilement adoptées. Donc, en 2015, le plus haut tribunal du pays a tranché que le droit de grève est intimement lié à la liberté d'association qui est protégée par la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, depuis, le droit de grève bénéficie d'une protection constitutionnelle en tant que composante essentielle d'un véritable processus de négociation collective. C'est une norme qui est très puissante hein, parce qu'au fond, lorsqu'il y a vote d'une loi spéciale, la grève cesse et puis les travailleurs sont en retour au travail, mais finalement, est-ce que les travailleurs ont obtenu ce qu'ils désiraient? Non. Hein, bien des fois, non. En fait, non. Et donc, voilà, c'est une entreprise puissante qui va, on vient de le lire, qui va nuire à la liberté, en fait, qui va faire en sorte que les travailleurs ne pourront plus, ne peuvent plus s'exprimer comme ils le pouvaient, comme ils le peuvent lors d'une grève. Et indiquer et dire haut et fort que finalement, ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail. Depuis que Legault est au pouvoir, en fait, je dis Legault, mais depuis que la CAQ est au pouvoir, donc en 2018, il n'y a pas eu de loi spéciale votée, et c'est tant mieux. Mais on se pose la question, donc, est-ce que le conflit, ça pourrait être le cas pour le conflit actuel? Selon ce qui est écrit dans l'article, donc, de Mme Marin, rien ne l'indique que pour l'instant, en juillet dernier, le ministre du Travail, Jean Boulet, avait dit non au maire de Québec, qui réclamait une loi spéciale pour mettre fin à la grève des chauffeurs d'autobus. Ce que M. Boulet mentionnait, c'est qu'il faut respecter le droit de grève, qui est un droit fondamental. Couillard, par exemple, en 2017, avait à deux reprises adopté des lois spéciales, une première dans le cadre d'une grève dans l'industrie de la construction et une seconde lors d'une grève des juristes de l'État. Donc, dans les deux cas, elles ont été invalidées par les tribunaux qui les ont jugées inconstitutionnelles, rappelle donc le professeur Coutu. Donc, ça pourrait être le cas tout d'un coup avec le monsieur Legault, en fait, parce que ce qu'il faut prouver, et c'est ce qu'on comprend, c'est que ben il faut démontrer que la grève a un impact considérable et donc il faut donc forcer donc le retour au travail donc des travailleurs. On ne pense pas, en fait, selon M. Coutu, ben, il est fort probable qu'il n'y ait pas de loi spéciale adoptée, à moins, et c'est ce qu'on lit, c'est que, ben, que le retour au travail, donc forcé, permette parallèlement, donc, qu'il y ait on parle donc d'un arbitrage, qui est arbitrage, donc, alternative, raisonnable à l'exercice du droit de grève, comme un processus d'arbitrage véritable, neutre et impartial, qui va permettre, donc, de déterminer les conditions de travail. Donc, on force le retour au travail, et en fait, on demande aux travailleurs de rentrer au travail, hein, mais parallèlement, donc, on a une espèce d'arbitrage qui met en place, là, qui va, faire en sorte qu'on va poursuivre, que les négociations sont poursuivies, qu'on va pouvoir s'entendre finalement sur les conditions de travail. Ce que M. Coutu avance, par contre, c'est que, ben là, ce que ça veut dire, c'est que la gestion, en fait, l'établissement des conditions de travail de l'État, en fait, c'est peut-être pas le bon terme, l'établissement, mais bref, ces conditions de travail, finalement, seraient négociées par un arbitre, hein. Puis, selon M. Coutu, ben, traditionnellement, l'État québécois n'a pas voulu laisser un si gros morceau de son budget entre les mains d'un arbitre. Donc, on ne sait pas s'il y aura vote d'une loi spéciale pour forcer le retour au travail des enseignants québécois, enseignantes et enseignants québécois. Bref, et tant mieux, hein? Mais voilà. En même temps, bon, je comprends que beaucoup de parents, en fait, peuvent craindre donc un prolongement de la grève, mais voilà, ce qu'il faut, c'est de comprendre un peu pourquoi ces travailleurs manifestent, et puis voilà, chercher à s'entendre, puis en fait, avec, pourquoi pas collaborer pour que finalement qu'on puisse établir, mettre fin à ces disputes entre l'État québécois puis les enseignants, etc. Voilà. Pour qu'il puisse être satisfait, qu'il puisse négocier des conditions de travail qu'il juge et que vous jugerez, je pense, là, s'il y a discussion, conditions de travail décentes pour ces individus. Bref. Donc, un article de Mme Stéphanie Marin du journal Le Devoir. Et puis, juste en passant, donc je me suis abonnée au journal Le Devoir dernièrement. Je vous invite à vous abonner également au journal Le Devoir, La Presse, peu importe, Journal de Montréal également. Actuellement, les médias, puis c'est ce que monsieur... Pierre-Carl Pilado, je pense, là, le propriétaire de TVA, en fait, mentionnait, bon, hein, au niveau des médias, c'est complexe, hein, c'est compliqué. Puis, donc, les médias cherchent des revenus. Une façon d'engendrer des revenus pour les médias, mais les médias, maintenant, c'est l'abonnement. Donc, je vous invite à vous abonner à tous médias possibles. Hein. Vous avez un crédit de 15% qui est disponible, un crédit d'impôt de 15% du fédéral non remboursable qui est disponible, donc valide jusqu'en 2024, donc profitez-en. Okay. On se laisse pour une brève petite pause de 2 minutes. On va écouter ensemble une pièce musicale vietnamienne, donc que j'ai trouvée sur YouTube. Et on se retrouve par la suite pour poursuivre l'émission. On va écouter ensemble donc le reportage, en fait, le reportage, je dirais plutôt. On va écouter ensemble M. Koutouma, notre collaborateur, qui va nous parler donc de son analyse, sa perception donc du dialogue social et de l'impact donc du dialogue social sur les pays en développement. À tout de suite.
Le dialogue social est une entente entre le syndicat et les chefs d'entreprise visant à améliorer les conditions socio-économiques des travailleurs, s'assurer la paix sociale et l'accroissement d'un rendement meilleur de l'entreprise. Et c'est très important, ça encourage les échanges pour arriver à un consensus entre travailleurs et employeurs. Et donc ça apaise à des retombées positives sur les performances économiques, les pratiques de gouvernance et la stabilité sociale de manière globale. Et l'avantage du dialogue social est qu'il crée des relations mutuellement satisfaisantes et gratifiantes entre les partenaires, qui engendre au bout du compte un milieu de travail décent, la satisfaction dans le travail, des bons résultats pour l'entreprise et des façons générales des bienfaits pour tous. Et donc il a pour objet d'encourager les échanges pour arriver à un consensus entre travailleurs et employeurs, et il a pour fonction de favoriser la négociation dans l'entreprise et soutenir l'envie de dialoguer, promouvoir les rôles et l'implication des représentants du personnel, mettre en place des moyens enfin de favoriser la proximité entre les différents acteurs du dialogue social. Et pour les faire développer, il faut exploiter les thématiques qui impactent l'entreprise et le travail, favoriser la négociation dans l'entreprise et soutenir l'envie de dialoguer et promouvoir les rôles et l'implication des représentants du personnel, restaurer et respecter des horaires de réunion, disposer d'un ordre du jour clair et connu de tous, avec des objectifs partagés, et les bénéfices sont excellents pour les pays en voie de développement, car si réellement le dialogue social est fait et les résolutions sont respectées, puis prises en compte, ça booste le développement par l'effet que l'amélioration des conditions socio-économiques des travailleurs contribue à la croisement des BIP et PNB. Et ces pays devraient intégrer non seulement le dialogue social, mais aussi d'y assurer la survie ici des dialogues cycliques. Merci. C'est votre journaliste Joël Koutouma depuis Kinshasa.
Vous écoutez CKUT.
Êtes-vous locataire à Montréal? Avez-vous des questions sur vos droits? Votre comité logement peut vous aider. Pour trouver le comité logement pour votre quartier ou pour plus de ressources, visitez le www.rclalq.qc.ca.
Me revoilà au micro, donc j'espère que vous avez apprécié l'analyse de mon collaborateur Koutouma, Joël Koutouma. Donc, M. Koutouma, ce qu'il dit essentiellement, en fait, lui, il s'attarde à la question donc, du dialogue social dans le cadre des relations de travail, mais il faut savoir que le dialogue social vaut pour tous les domaines. Le dialogue social, c'est aussi de la collaboration et de la coopération. En politique, donc, le dialogue social devient une collaboration entre l'ensemble des acteurs de la société en vue de s'entendre sur ce que l'on souhaite pour notre société. Hein. Donc, ce que l'on souhaiterait pour la société québécoise. Et donc, M. Koutouma a parlé donc, de négociation collective et je vais poursuivre sur le sujet en discutant de négociation collective, mais de façon plus approfondie. Donc, la négociation collective, on l'a compris, c'est du dialogue social. Et pour discuter avec vous du sujet, donc, j'ai consulté un document, donc le rapport 2022 sur le dialogue social, la négociation collective pour une reprise inclusive, durable et résiliente. Donc, c'est un processus volontaire entre un ou plusieurs employeurs et une ou plusieurs organisations de travailleurs. Ces parties représentatives se réunissent pour exprimer leurs demandes respectives. Elles vont partager des informations sur ce qui motive donc leur position et éventuellement, on cherche à en arriver à un consensus. OK. La négociation collective, en fait, normalement, les parties sont de bonne foi. Hein, donc, pour qu'il y ait consensus, il faut qu'il y ait une bonne foi, parce que consensus qui demande à ce que... on parle de compromis, donc nécessairement, il faut qu'il y ait une bonne foi. Puis, donc, je répète, c'est un échange d'informations. Et comme le mentionnait M. Coutu, quand on parle de négociation collective, on parle de droits fondamentaux, on parle de liberté syndicale, mais on parle également donc de reconnaissance effective du droit de négociation collective. Et ce que l'on dit, c'est que ces droits fondamentaux, donc la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, sont en fait les fondements là, de la démocratie des marchés du travail et donc ouvrent la voie donc, à une gouvernance inclusive et efficace du travail. Donc, on négocie, on aborde toutes sortes de questions, donc les conditions de travail, conditions d'emploi, la négociation collective permet également donc de discuter de sujets plus, je dirais, c'est peut-être nouveau, en fait, là, quand on parle de négociation collective, on peut discuter aujourd'hui de la stratégie, du plan d'action de l'organisme. Donc, c'est probablement récent. Là. Je pense qu'à l'époque, on était vraiment dans les conditions pures du travail, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a toutes sortes d'éléments qui sont négociables lors d'une négociation collective. Et donc, ce que le document dit, c'est qu'elle favorise des entreprises durables. Et puis, donc là, la question que je me pose, c'est que veut-on dire par entreprise durable? Là, il faut lire, hein, en fait, je dirais, mais on... faut lire, mais bon, durable, une entreprise qui perdure dans le temps. Pourquoi? Parce que ben, finalement, on a décidé d'une vision commune pour l'entité, et ce qui fait que ben, ça engendre, je dirais, les parties sont d'accord avec avec les décisions prises pour cette organisation, et nécessairement, ça créer des parties, en fait, qui sont, je dirais, une satisfaction au travail et qui permet probablement, donc, une durabilité là, de l'entreprise. Hein, c'est une hypothèse, c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'opinions. Donc, la négociation collective efficace favorise les entreprises durables, ça veut dire quoi? Ben, il y a toutes sortes de bonnes réponses, en fait, là, je dirais. Mais nécessairement, c'est sûr qu'une... en fait, c'est certain qu'une entente fait en sorte, si tout le monde respecte une entente, l'entente signée, conclue, fait en sorte que, et à partir du moment où on décide de respecter cette entente, ben c'est sûr que, voilà, jusqu'à moyen terme, ben finalement, les gens, nécessairement, ben, travail, en fait, respectent cette entente, et le respect fait en sorte que, est-ce qu'il y a des, en fait, il y a des manifestations finalement qui ont lieu, non pas nécessairement. Le respect d'une entente fait en sorte que peut-être que jusqu'à moyen terme, il n'y a pas de manifestation. Bref, hein, c'est une hypothèse. Donc, la négociation collective est efficace également, favorise la confiance. Confiance entre qui? Ben, confiance entre les parties. Donc, les parties ont signé ce qu'on appelle en fait une convention collective, hein, parce que le processus final de la négociation, c'est la signature d'une convention collective. Et donc, on a été en mesure d'en arriver à un consensus, et donc nécessairement, clairement, il n'y a pas seulement une confiance qui a été établie entre les parties, donc voilà. Coopération, bien évidemment, hein, je l'ai dit, le dialogue social, c'est de la coopération, donc la négociation collective qui est de la coopération, ben finalement, c'est ça, on comprend ce qu'on veut dire, elle favorise la coopération, la stabilité, jusqu'à moyen terme, en fait, oui, il y a stabilité dans l'entreprise, hein, parce qu'il y a une entente qui a été signée. Et ce qu'on dit dans le document, c'est que donc l'entreprise durable, la confiance, la coopération, la stabilité sont des éléments qui favorisent donc des relations professionnelles harmonieuses. Hein. Ça, il y a beaucoup de logique. Et donc, dans un tel contexte, dans un contexte de relations professionnelles harmonieuses, ben, on a une réduction et rotation des effectifs, on a une main-d'œuvre qui conservée, une main-d'œuvre qualifiée, expérimentée, qui reste au sein de l'entreprise. Donc, quand on parle d'entreprise durable, on se dit ben, réduction de la rotation des effectifs, une main-d'œuvre qualifiée, expérimentée, voilà, qui reste au sein de l'entreprise, ça fait du sens. Donc, une négociation favorise l'entreprise durable parce que bon, on a du personnel qui l'a expérimenté. Donc, l'entreprise fonctionne plus productive. Hein, on sait que la rotation de personnel a un effet sur la productivité de l'entreprise. On a du personnel aussi qui est présent et expérimenté. Donc, oui, il y a beaucoup de logique. La négociation collective favorise l'entreprise durable. Bref. Maintenant, donc, ce contexte de relations de professionnelles harmonieuses contribue en plus à forger la résilience à court terme. C'est intéressant, hein? Parce que ce que l'on dit, c'est que en fait, on parle de compromis nécessaires donc dans les cas de crise. On parle de résilience, mais on fait le lien avec des compromis nécessaires pour assurer la continuité des activités, préserver les emplois et les revenus. Et dans le document, on parle donc, du fameux COVID, de la crise COVID. COVID-19, ben, ce qu'on comprend, c'est que dans des temps de crise, on négocie à nouveau pour vérifier comment on peut s'assurer ben, de préserver, assurer la continuité des actifs d'entreprise. Hein, j'imagine, ben, il faut renégocier peut-être les salaires ou bref, les salaires et autres conditions de travail pour que l'entreprise ben, elle ne ferme pas ses portes. Hein. Donc, voilà. Donc, relations professionnelles harmonieuses contribuent donc à forger la résilience à court terme, à moyen terme, ce qui facilite donc les compromis dans les temps de crise. Hein. Quand on parle de pays en développement, Il est dit que le dialogue social contribue à la réalisation des objectifs de développement durable. J'en parle beaucoup de ces fameux objectifs de développement durable. Et donc, plus particulièrement, l'objectif 8, donc sur le travail décent et la croissance économique. Vous le savez, le travail décent est un enjeu majeur pour les pays en développement. Donc, on sait que dans ces pays, il y a beaucoup de problématiques encore aujourd'hui, donc de violation des droits fondamentaux au travail. La négociation collective va permettre aux parties donc de s'exprimer sur ce qui vaut pour l'organisation, ce qui vaut pour ce qui est de mieux pour l'organisation, puis donc de discuter donc de travail décent et en fait donc de discuter des trois autres piliers du travail décent, le travail décent, si vous lisez sur le sujet, donc l'OIT parle de quatre piliers du travail décent. Donc, le dialogue social est un premier pilier, en fait, est un pilier, mais il y a également l'emploi de qualité. Ce qu'on veut, c'est donc créer des emplois décents, en fait. Le travail décent vise des emplois décents. Ensuite, les droits au travail, la protection sociale également, troisième, en fait, autre pilier. Et donc, on négocie, on discute, en fait, ce qu'on veut essentiellement, c'est s'assurer qu'on puisse offrir donc du travail décent, des conditions de travail décentes à notre personnel, à notre salarié. Donc, dans les pays en développement, la négociation collective a un impact majeur, hein, puis parce qu'il y a encore une grande problématique, là, je le répète, au niveau là, du travail décent, là, je dirais, là, dans ces pays en développement. Donc, on va discuter juste après. Donc, on va écouter ensemble une brève petite pause musicale. En fait, une pause de 4 minutes du groupe colombien Buena Vista Social Club. Vous allez reconnaître la pièce. Hein? Je suis tombée par hasard sur cette pièce. Puis finalement, bon, je l'ai écoutée. Puis ben, j'ai reconnu la pièce, une pièce bien connue. Donc, bref, on va écouter ensemble 4 minutes et on se retrouve par la suite et on va discuter. Donc, on parle de négociation collective. Et des pays en développement, on va essayer de vérifier quel est le taux de syndicalisation de ces pays en développement. Est-ce qu'on va essayer de se poser la question, est-ce que finalement, un taux de syndicalisation plus élevé, donc favoriser donc, la négociation collective, donc et nécessairement donc, rédiger des conventions collectives pour les entreprises de ces pays en développement, est-ce que ça pourrait avoir un impact, en fait, là, un impact positif? Là. Donc, on se laisse pour la brève petite pause musicale et on se retrouve par la suite avec notre autre question, donc l'impact le taux de syndicalisation des pays en développement, on fait quoi? Valo au micro, toujours sur les ondes de CKUT 90.3 FM à Montréal. Donc, pour répondre à cette question, à savoir, ben, on fait quoi? On a un taux de syndicalisation, on va le voir plus bas pour les pays en développement. Bon, on a compris que la négociation collective avait finalement donc un impact positif hein, sur les entreprises. Donc, hein, on vérifie qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances. Donc, juste avant, donc mon collaborateur Joël Koutouma vous a parlé d'un impact du dialogue social donc sur les pays en développement. Ce qu'il a mentionné, c'est qu'au fond, le dialogue social booste le développement des pays, booste donc le PIB et le PNB, donc le produit national brut, hein, puisqu'il permet l'amélioration des conditions sociales et économiques. Et puis, c'est clair que bon, la négociation collective, parce que M. Koutouma, parle au fond de relations de travail, plus dans un cadre de relations de travail, mais donc on négocie donc dans une entreprise, puis c'est clair que bon, pour qu'on ait un boost, si je pourrais dire, du développement, c'est vraiment à petite échelle en fait. Donc on négocie dans une entreprise, les conditions sociales et économiques des travailleurs, de l'organisation sont améliorées, il y a, je dirais, l'impact sur l'économie, donc ces travailleurs en fait consomment davantage en croissance économique, donc c'est à petite échelle, mais ce qu'on comprend, c'est qu'au final, donc si... En fait, il y a une négociation à l'échelle nationale. Bon, ça peut être impossible, mais s'il y a amélioration à l'échelle nationale des conditions sociales et économiques, travailleurs, la population, je dirais des citoyens, oui, il y a clairement un impact sur donc le développement. Il y a un boost, comme le mentionne mon collaborateur Koutouma, donc il y a un boost sur le développement, donc la croissance économique de ces pays. Quel est le taux de syndicalisation de ces pays? Donc, pour ce faire, j'ai consulté, pour connaître donc ce taux de syndicalisation, j'ai consulté un article écrit en 2016 par la journaliste Danielle Baudouin de la Société Radio-Canada. Donc, 2016, oui, donc on parle d'il y a, 8 ans maintenant, hein, 8-7 ans. Mais tout de même, j'avance que les données sont encore à jour parce que, bon, on est dans... Voilà, on parle de faits, je dirais, très général, hein, donc c'est encore à jour. Donc, l'article s'intitule comme de cette façon. Donc, dans quel pays y a-t-il la plus forte présence syndicale? Madame Baudouin a interviewé, à l'époque, en 2016, donc M. Paul-André Lapointe, professeur au département des relations industrielles de l'Université Laval. Elle a interviewé également un monsieur Hennebert, qui est professeur, donc en 2016, qui était professeur au département de gestion des ressources humaines des HEC Montréal. Et elle a interviewé également un Gregor Murray, hein, donc, qui était à l'époque titulaire donc, de la chaire de recherche du Canada sur la mondialisation et directeur du centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Donc, au départ, ce que M. Lapointe, hein, c'est M. Lapointe au départ qui avance, donc Paul-André Lapointe qui avance qu'on assiste bel et bien à un déclin de la syndicalisation dans le monde. Mais cette baisse est plus ou moins prononcée selon les régions, donc l'endroit où l'on se trouve. Aux États-Unis, donc en 2016, en fait, on était à un taux, de 30% de syndicalisation dans les années 60. Je trouve que c'est peu quand même, 60. Je me pose la question, au Québec, dans les années 60, je pense qu'on était à un taux de syndicalisation plus élevé. Donc, 30% dans les années 60, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, en 2016, on était à 10%. Je crois qu'aujourd'hui, en 2023, on est encore à 10%, autour de 10% de taux de syndicalisation. Donc, les pays scandinaves sont les pays où, en fait, le taux de syndicalisation est le plus élevé. On a connu un léger déclin hein, depuis quelques années, mais tout de même, en fait, hein, tout de même, en 2016, on était toujours à entre 50 à 80 donc, de taux là, de syndicalisation, donc de taux de syndicalisation des citoyens de ces pays scandinaves. Donc, ce sont les pays, donc je le répète, où la syndicalisation est la plus élevée, les pays également où, en fait, les mesures de protection sociale sont les plus avancées. Okay. Dans les pays d'Amérique du Sud, on a des taux de syndicalisation qui avoisinent les 30 %. Il y a eu un déclin au cours des dernières années. Le système ou les systèmes de relations industrielles dans ces pays sont fragiles, hein, et puis on le sait très bien. Si vous vous intéressez un peu à la question, vous allez comprendre que oui, dans ces pays, les chefs syndicaux, des fois, voilà, ont de la misère. Donc, le système de relations industrielles est fragile. Les syndicats ont tendance à être très dépendants de l'État. Et puis, j'émets l'hypothèse que c'est vrai pour, dans la plupart des pays en développement, les pays, en fait, où l'État est très présent, où on a un État qui on n'est pas nécessairement dans une dictature, mais un État qui est, voilà, totalitaire, autoritaire, hein, j'ai pas les bons termes. Bref, dans ces pays, je suis pas mal certaine qu'on a des syndicats qui sont très près de l'État, en fait, ce qui fait que, voilà, est-ce que les salariés est-ce qu'il y a réellement une bonne foi de la part des employeurs? Hein, pas nécessairement. On parlait de l'Amérique latine, hein, parce que j'ai noté qu'il y avait un film qui était sorti il y a plusieurs années sur une entreprise Coca-Cola au Mexique, je crois bien, ou en Colombie, en fait, puisqu'on comprend, en fait, le film mentionnait, pareil, de ces chefs syndicaux qui sont, pas torturés nécessairement, mais qui sont, sont maltraités, hein, entre guillemets. Et donc, en Amérique du Sud, on a connu des taux de... on a un taux de syndicalisation qui avoisine 30 %, mais bon, est-ce que là-bas, la présence syndicale, est-ce qu'elle est appréciée? En fait, pas nécessairement. En tout cas, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. C'est difficile pour le syndicalisme en Amérique du Sud, en Amérique latine de façon générale, je pense bien. Madame Baudouin, donc, je mentionnais rencontrer un monsieur Hennebert, donc Marc-Antonin Hennebert, professeur, donc je répète, au département de gestion des ressources humaines au HEC à Montréal. Au Québec, au Canada, il y a une certaine stabilité. Donc, en 2014, on était à 39,6% de taux de présence syndicale versus 30% au Canada. OK. Ces taux sont à peu près les mêmes. Donc là, on était en 2016 quand Mme Hébert, Mme Baudouin a écrit l'article. Aujourd'hui, je pense que nous sommes encore autour de 30%, puis le secteur public et bien évidemment le secteur le plus syndiqué. Monsieur Hennebert énumère les raisons qui expliquent la baisse de la présence syndicale. OK. On est stable au Québec, mais clairement, depuis les années, 70, on était, je pense, autour de 80% ou à peu près là, de taux de syndicalisation. Au Québec, aujourd'hui, 30%. OK. Donc, M. Hennebert explique les raisons de la baisse de cette présence syndicale. La recomposition des économies, l'emploi se développe en général dans le secteur tertiaire privé, donc finance, commerce, restauration, hôtellerie, secteur où les syndicats sont peu présents. Les syndicats étaient présents avant au niveau là, dans l'industrie manufacturière. Aujourd'hui, l'industrie manufacturière, elle est toujours présente, mais bon, ouais, il se passe quoi de ces industries manufacturières, hein? Je ne sais pas. Pourtant, il y en a toujours, mais la syndicalisation, elle est moins élevée. Bref, hein? Ensuite, l'évolution du marché du travail, donc l'emploi typique, hein, donc l'emploi à temps partiel, occasionnel, des travailleurs autonomes, donc prend de plus en plus de place, près de 40% de l'emploi au Québec, en fait, sont dans la catégorie donc des emplois typiques. Et apparemment, ce que M. Hennebert mentionne avant, c'est que pour certains emplois, il n'est pas possible de se syndiquer. Bref. Maintenant, dans les pays en développement, il importe de vérifier si nous ne sommes pas, nous également, les pays en développement, donc à l'ère de ce marché du travail flexible, de l'emploi, alors que un marché du travail stable est probablement un moteur de développement. On l'a vu, la négociation collective ou la syndicalisation contribue à la stabilité de l'entreprise. J'étais au Congo dernièrement, puis j'ai discuté avec un cousin qui me racontait qu'il travaillait pour Vodacom, une entreprise réputée congolaise. Et puis, voilà, donc, à un moment, les propriétaires, en fait, de Vodacom, les dirigeants ont décidé d'envoyer en sous-traitance, donc de donner en sous-traitance à des Indiens présents au Congo. Donc, c'est en fait une partie là, des activités de l'entreprise. Hein. Puis bon, je riais, je lui posais la question, mais ici aussi, au Congo, on parle de flexibilité des marchés. je comprenais pas. Le problème, c'est qu'au Congo, comme dans beaucoup de pays en développement, on a des taux de chômage hyper élevés, donc des taux de chômage qui avoisinent donc les 80%. Au Congo, on est autour de 80%, dans d'autres pays, voilà, en Afrique, de façon générale, les taux de chômage sont élevés. En Asie également, on a des bons taux de chômage. En Amérique latine aussi. On a des taux de chômage élevés, mais aujourd'hui, maintenant, les dirigeants de ces pays parlent, comme en Occident, donc de flexibilité des marchés. Bon. Mais pour assurer un développement, on a besoin donc de stabilité des entreprises, donc stabilité du marché du travail, ce qui va permettre donc, des entreprises qui vont croître plus facilement dans un environnement, je dirais, qui est stable. Il y a une croissance qui est plus facile, c'est clair. Puis voilà. Mais là, on est à l'ère de la flexibilité. Puis flexibilité égale, ce que j'ai noté, flexibilité égale, ben, possiblement également aussi emploi atypique. L'emploi atypique, ben, flexibilité égale emploi atypique. L'emploi atypique égale, synonyme également de précarité. Précarité, bon, c'est de la pauvreté. Pauvreté, c'est ben là, on n'est pas dans la croissance, en fait. Mais entreprise stable également, égale donc syndicalisation plus facile, égale amélioration donc des conditions sociales et économiques, comme on l'a vu, donc. Égale donc accroissement donc développement, accroissement donc comme M. Koutoumal l'a mentionné, accroissement donc du PIB, du PNB également, donc voilà. Donc dans nos super pays en développement, on parle maintenant donc de flexibilité des marchés. Bon, est-ce qu'on se trompe, hein? Peut-être. Autre facteur conduisant donc à la expliquant donc la baisse du taux de syndicalisation, donc du taux de présence syndicale. Plusieurs pays apparemment ont resserré les lois du travail quant à l'accès à la syndicalisation. Donc, par exemple, apparemment, donc 24 États américains auraient adopté des lois restreignant les droits syndicaux. Maintenant, on a également donc un essoufflement de l'action syndicale à l'ère de la mondialisation, du libre-échange, du néolibéralisme. Les rapports de force en relation de travail se redessinent. Donc, les employeurs, les gouvernements ont leur rapport de force. Évidemment, quand on a l'employeur a le rapport de force, le gouvernement, ben là, les syndicats, les personnes salariées, ça devient plus complexe pour eux de négocier des conditions de travail qui leur sont, je dirais, des conditions qu'ils désirent. Hein. Donc, voilà. On le sait, beaucoup aujourd'hui, est-ce que c'est beaucoup, peut-être que les choses vont changer, hein. On parle beaucoup maintenant, on regarde l'actualité, puis si aujourd'hui, ben, la pauvreté a augmenté, oui, mais aujourd'hui, les gens ont de plus en plus de misère à survivre. Avec un 40 000, c'est ce que je mentionne toujours, à l'époque, quand j'étais plus jeune, les gens vivaient de façon décemment. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est bon, la personne gagne 40 000 par année, mais elle doit fréquenter des banques alimentaires, puis elle doit, voilà, certains maintenant dorment dans leur auto, faute d'être capable de se loger, parce que ben, les revenus sont insuffisants. Hein. Et je mentionne ça pour quelle raison? Je ne sais pas. Donc, possiblement que les choses pourraient changer avec le temps. Donc aujourd'hui, on avait une vision dernièrement, je pense, du syndicalisme qui était un peu, je dirais, qui est négative. Ouais, les syndicats, bon, hein, les syndicalistes, ce sont des chialeux, hein, comme on dit au Québec. Mais aujourd'hui, si on prend conscience, en fait, on se dit, ben voilà, c'est de plus en plus dur de vivre, de survivre aujourd'hui. C'est plus complexe. Et puis, on comprend que les syndicats ont un apport, on le mentionne dans l'article, un apport positif. Les syndicats ont été à la base des premières conditions, des premières lois du travail. Et donc, les syndicats ont un apport positif. Et si les citoyens le comprennent, ben nécessairement, donc, la vision donc, du syndicalisme va changer. Là. Et donc, est-ce que les syndicalistes ne sont que des chialeux? Pas nécessairement. Quels sont les défis pour le mouvement syndical? On parle donc d'être novateur. Le Québec a été novateur, c'est ce qu'on lit dernièrement grâce à des comités sectoriels de main-d'œuvre. On discute de formation, de productivité, d'innovation. C'est intéressant. Je mentionnais qu'on n'est plus uniquement à l'ère des conditions pures et dures de travail, mais aujourd'hui, on parle de formation, de productivité, d'innovation. Donc, c'est pertinent. Ça peut être intéressant pour le personnel. Et également, donc, il y a la question des jeunes également. Donc, les jeunes doivent s'intéresser à la question syndicale. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit souvent, c'est que les jeunes ne sont plus intéressés? C'est pas tout à fait vrai, mais les jeunes ont, je dirais, des valeurs. Le syndicalisme ne rejoint plus ou pas complètement les valeurs des jeunes. Faudrait comprendre ce que les jeunes attendent, je sais pas, de l'avenir, de leur société, puis en quoi le syndicalisme peut les aider à atteindre, voilà, à faire en sorte qu'ils atteignent cette idée, en fait, à construire une société correspondant à leur vision de cet avenir de la société. Bref, voilà. Donc, quel est l'avenir? Quels sont les défis pour le mouvement syndical? Être novateur, aller chercher les jeunes. Hein? Également, quels sont les défis pour le mouvement syndical pour les pays en développement? Je pense qu'on est beaucoup dans la conscientisation de la population sur la réalité de ces pays en développement. Donc, c'est-à-dire, j'ai écrit, donc, j'ai parlé de dire la vérité. Donc, nous ne sommes pas, en fait, au Congo, par exemple. Je prends souvent l'exemple du Maroc, parce que j'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet dernièrement. Et puis, voilà, donc est-ce qu'on parle de pays développés? Je pense que le Congo est un pays en développement. C'est bien, ce serait bien de dire à la population que nous sommes un pays en développement. Et donc voilà. Et là, ça veut dire quoi, être un pays en développement? Probablement que ça veut dire que nous sommes un pays où le taux de pauvreté est plus élevé, et etc. Okay. Et donc, on fait quoi? Est-ce que la population cherche à être un pays pauvre, hein, où on a un taux de pauvreté plus élevé? Pas nécessairement. Donc, je pense que de dire la vérité, de conscientiser la population sur la réalité du pays, c'est un élément, en fait, et c'est une chose à faire pour aider le mouvement syndical dans ce pays en développement. Donc, conscientiser la population va créer, en fait, va changer, va avoir un impact sur, avoir un effet de mobilisation, ce qui fait qu'on va, en fait, maintenant comprendre l'importance de syndiquer, oui, mais de discuter, en fait, pour en arriver, peut-être, pour discuter d'un avenir, en fait, discuter de quelque chose de positif, de quelque chose qui pourrait être plus positif pour les pays. Et voilà, donc, conscientiser la population pour créer un effet de mobilisation, pour que la population puisse s'entendre sur, voilà, ce que l'on désire pour l'avenir, donc, de notre société. Dans les pays en développement, on a des taux de syndicalisation qui oscillent autour de 20 à 5%, donc je dirais plutôt de 5 à 20%, donc dépendamment donc, du développement du pays. Et là, je vais poser la question, pourquoi on a des taux de syndicalisation aussi, aussi peu élevés? Hein? Et selon l'hypothèse d'un doctorant en communication, un monsieur Calaille, marocain d'origine, donc le taux est directement relié au taux d'informalité dans ces pays. Donc, 80% à peu près au Congo, en Asie, on est bien des fois des taux de 80% également en Amérique latine. Et donc, on a un taux d'informalité donc de 80%. On a un taux de chômage à mes yeux, tout est exactement relié. Donc, taux de chômage 80%, taux d'informalité de 80%. Les travailleurs de l'économie informelle, bien évidemment, sont des travailleurs qui ne sont pas reconnus officiellement, donc ne sont pas, ils ne sont pas inclus dans une relation, ne font pas partie d'une relation de travail officiellement reconnue. Et donc, ne sont pas des personnes salariées, ce n'est pas possible, hein, donc les syndiqués, et donc voilà. Donc, taux de syndicalisation plus bas, directement en lien avec le fait qu'on a donc des travailleurs, une économie informelle qui est très présente, un marché de l'emploi informel très présent. Donc, on fait quoi? Il est possible de syndiquer les travailleurs de l'économie informelle, et puis on va en discuter lors de la prochaine émission. Maintenant, rapidement, vous connaissez bon, l'économie informelle, hein, 61% apparemment de la population active dans le monde gagne leur vie grâce à l'économie informelle. Donc, il ne s'agit pas d'un libre choix, une conséquence, une pénurie donc d'opportunités d'emploi offertes là, par le marché du travail, d'emploi formel. La proportion de l'emploi informel bon, varie selon les régions. En Afrique, on a les taux d'informalité là, les plus importants. Ils sont importants également en Asie centrale, en fait, là, mais moins qu'en Afrique. Et voilà. Donc, je ne veux pas m'attarder sur cette question de ce qu'est l'économie informelle. J'en ai déjà parlé. Mais juste avant, en fait, on va en discuter donc, lors de la prochaine émission, comment on fait donc, pour syndiquer ces travailleurs de l'économie informelle. OK? Juste avant de conclure l'émission, écouter juste avant de conclure l'émission une pièce musicale de Franco, un artiste congolais, vieil artiste congolais, et on va se retrouver donc pour la fin de l'émission. Mais juste avant, j'avais parlé de l'OIT à un moment, donc expliquer que l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, est une agence tripartite de l'ONU, donc réunissant des représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs de 187 États membres pour établir des normes internationales du travail. Et on a le BIT qui est le Bureau international du travail, qui est un organisme rattaché à l'ONU, chargé des questions générales liées au travail dans le monde. Et puis, le BIT, en fait, va produire, donc, rédiger toutes sortes de documents. Et vous avez une bibliothèque du BIT présente sur le site de l'OIT, intéressant, là, si vous avez besoin de documentation relative au travail. Donc, consultez la bibliothèque du BIT. Donc, on se laisse pour la brève petite pause de quelques minutes. Donc, on va écouter ensemble l'artiste Franco, un vieil artiste congolais, et on se retrouve pour la fin de l'émission.
Kulinga kapesi bazai na mbongo Yoka ndengi azariko kabayo Na mitema ya basi pe na mibali Yumo tozai na badiplon mitano Mario Sala kameme foro luka mosala Mario Pona nino zako baby saka usambu sakombo nobo Mario Ah, nalembi
Ba protinga na pakolaka Zote koma sembe sembe
L'émission est maintenant terminée, donc à nouveau, je vous invite à offrir des dons aux sinistrés de la bande de Gaza en contactant l'organisme, en fait, la coalition humanitaire.ca, donc www.coalitionhumanitaire.ca ou en téléphonant au 1-855-461-2154, 1-855-461-2154. Il y a la bande de Gaza, mais également dans les sinistrés d'Israël. En fait, je ne prends pas parti pour le côté Palestine versus le côté Israël. Donc voilà, je pense que c'est important d'aider donc ces gens qui sont dans le besoin actuellement. Dans le journal Le Devoir, maintenant, j'ai consulté, c'est peut-être pas le bon terme, mais je suis tombée sur une chronique, en fait une publication de 8 articles hyper intéressante. Je vous parlais lors de la dernière émission du méga projet commercial du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, qui parlait donc de son projet, en fait de son méga projet, les nouvelles routes de la soie, lancé en 2013, qu'il veut c'est en fait relier bon, en fait divers États pour faciliter le commerce. Puis, il avait une ambition maintenant, le président, de commercer davantage avec des pays de l'Asie centrale également. La dernière fois, j'ai omis de le mentionner. Donc, il n'y a pas que le Pérou ou l'Amérique latine, mais également l'Asie centrale. Et donc, c'est un peu dans le cadre de ce projet, donc des nouvelles routes de la soie du président de la Chine. Je vous propose de lire la chronique, une chronique voyage, donc je répète, de 8 articles où on a la journaliste Magdalene Boutros et je pense un photographe Valérian Mazzato qui ont parcouru deux régions de l'Asie centrale, donc impliquées justement dans ce projet des nouvelles routes de la soie, donc le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Ces deux personnes nous parlent donc de leur voyage hyper intéressant. Donc j'ai lu une première publication parue samedi dernier le 18 novembre, Korgos, un port au milieu du désert, une publication. Un port au milieu du désert, pardon. On a une seconde publication qui est parue ce lundi. Donc, Kazakhstan coincé entre l'ours russe et le dragon chinois. On en a une nouvelle qui est parue mercredi. Donc, Korgos versus Samarkand. Je prononce peut-être pas correctement les termes, les mots. Bref, première publication lue samedi. Donc, un port au milieu du désert. Il y a les Chinois, en fait, les citoyens chinois, je peux être péjoratif, donc les citoyens chinois qui ont construit donc à la limite là, du Kazakhstan, un grand terrain où on construit donc des automobiles. Il y a des gens, la population du Kazakhstan qui réside maintenant dans ce entre guillemets désert, et puis qui travaillent pour toute cette super industrie, et puis qui résident, donc ils sont logés gratuitement, etc. Des écoles ont été construites, donc hyper intéressant. Donc je vous invite à lire ces 8 publications, puis également elles sont interactives, on a une version interactive hein, quand on se rend sur le site web, donc hyper joli. On voit des photos, on a l'impression d'être sur les lieux, donc je vous invite fortement à lire ces 8 publications, donc les nouvelles routes de la soie, donc dans le cadre, donc en lien avec cette manchette, donc la manchette là, du mois dernier sur ce méga projet commercial du président de la République populaire de Chine. Donc vous le savez, on conclut l'émission maintenant, donc j'ai fait toujours du bénévolat au Centre des travailleuses et travailleurs immigrants. Donc, et au centre sont rattachés donc l'Association des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires et travailleuses et travailleurs d'agences de placement. Donc, vous avez besoin de discuter de vos conditions de travail, contactez le centre 514-342-2111, 514-342-2111. Vous avez également donc le site internet iwc-cti.ca, iwc-cti.ca. Et pour plus d'informations sur l'émission d'aujourd'hui ou si vous voulez nous rejoindre, voilà, discuter, hein, contactez le département donc de la production à production à commercialsécurité.ca, production à commercialsécurité.ca. Donc, je mentionnais prod à commercialsécurité.ca lors de la dernière émission, mais c'est bel et bien production. Donc, on se dit à la prochaine. Donc, l'émission a lieu tous les quatrièmes jeudis de chaque mois. Donc, prochaine émission, on parle du 28 décembre. Et voilà, puis lors de cette émission, vous allez rencontrer un autre collaborateur, donc Hervé Kakenza, qui va vous parler donc de journalisme.
Thanks to everyone who donated to CKUT.
Good evening. It's 6 o'clock. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio. From drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between, professional, student, and community productions in and around Montreal, the island also known as Jojage in the Ganiagaha language and Muniang in Anishinaabemowin, where we spell theater with an R-E at the end. I'm your host, Sarah Day, live in studio on Thursday, December 28th, 2023. That's right, it's our final show of the calendar year. I hope you had an amazing, restful Christmas, a wonderful Hanukkah, of course. Perhaps you're enjoying Kwanzaa and getting ready for New Year's celebration in just a matter of days. There's so much to look forward to in 2024, but for tonight, we are going to look back on a significant theme or trend, let's say, related to performance.